Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Raymond, chez toi, comment ça s'est passé?
Je crois que c'est un beau succès. On a eu un taux de participation de plus de 90% des effectifs. Les équipes ont visiblement bien apprécié que le président vienne à leur rencontre pour leur parler de l'entreprise. Et au-delà des informations, franchement, le message « prenons du plaisir à travailler ensemble » a été très très bien ressenti.
Tico, tu peux nous parler de la réunion?
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec Gis au studio. Bonjour.
Oui, bonjour Yves.
Gis, on te connaît sur Erdiwa pour ton émission Notre mot à dire, des petites séquences d'interprétation de la langue française selon tes visions. Et nous écouterons d'ailleurs un extrait d'une d'elles durant cette programmation. Alors, tu es ici aussi pour nous annoncer avant tout des stages et des initiations à des ateliers.
Oui, des ateliers. Les ateliers Être et Écrire, donc, que je propose déjà depuis une douzaine d'années, avant à Grenoble où j'habitais, et depuis quelques années donc, dans le Diwa et autour. Et cette année, c'est sur le thème du corps. Donc voilà, je consacre toute cette année à ce thème-là parce que moi-même, j'écris et c'est vraiment à partir du corps, à partir des sensations. Et je vois aussi que dans mes ateliers, la pratique corporelle est centrale. C'est-à-dire que les participants ne restent pas assis autour d'une table à écrire qu'avec leur intellect, mais c'est à partir d'expériences, à partir du vécu, à partir de mouvements, d'expériences à deux, à trois, à quatre, de mouvements, d'échanges, de réflexions.
Peut-être un début de vibration dans les relations et de pouvoir les déterminer, les décliner justement dans un langage.
Oui, les relations, en tout cas, entre les participants et participantes, est vraiment primordiale. Enfin, moi, je me porte garante du cadre, un cadre de confiance, de respect, et aussi vraiment de légèreté, de joie. Et pour ça, en fait, ce que je vais proposer pour que la rencontre puisse se faire, pour qu'il y ait cette confiance-là, va être au sein même des propositions qui vont amener ensuite l'écriture.
Alors, dans l'introduction de cette émission, nous avons proposé une écoute de Under Control, oui. cette réunion d'entreprise avec une table et beaucoup de personnel autour, et cette introduction par un des chefs de table, et ensuite viennent les mots, les paroles et les sons.
Ouais. Les beatbox, j'ai choisi en fait cette musique-là pour introduire parce que je n'avais pas envie d'illustration, de mots, de poésie comme on peut l'entendre habituellement, parce que la poésie c'est aussi le silence, le beatbox. C'est comme on est en train de se parler aussi, c'est une poésie, c'est un art de vivre en fait. Et là, donc, j'ai choisi cette séquence-là. Vous pourrez regarder d'ailleurs le clip. En effet, c'est une réunion, donc une réunion très sérieuse. Tout le monde parle avec des mots, avec des phrases. Et puis, à un moment, il y a Tico, une des personnes de Under Control, qui répond par le beatbox, par le son, par les attaques, par la vibration des cordes vocales. Et tout ça, c'est aussi un dialogue, c'est aussi des choses que l'on fait passer. Et je voulais aussi montrer ça parce que souvent, je suis rattachée aux mots essentiellement. Alors oui, j'écris, oui, je fais des pratiques d'écriture, mais j'aime les mots, leurs vibrations, leur matière, mais c'est surtout ce qu'il y a dessous, en fait. Tout ce que ça permet, ces pratiques d'écriture permettent aussi la rencontre, permettent, j'espère, de s'émanciper, de se sentir capable d'écrire, de se sentir digne, de pouvoir s'exprimer. Donc c'est aussi très populaire, c'est dans une visée vraiment populaire, politique, démocratique aussi, de créer des groupes comme ça. Et c'est pas forcément que pour les mots, pour écrire des mots, mais c'est aussi tout ce que ça amène derrière.
L'aspect non-verbal est un centre d'intérêt pour toi, justement, en partant de sons que produisent la personne, l'humain, et ce cheminement qui a permis aussi de construire son vocabulaire, sa grammaire, et puis ses discours à l'adresse de l'autre. Est-ce que tu t'es penché très, très profondément au niveau des racines de la langue pour aborder ce sujet dans tes émissions ?
Alors déjà, sur le premier point le côté sonore, c'est vrai que j'adore ça. J'ai commencé plus de 20 ans à écrire et j'étais beaucoup tournée justement sur ce qu'on appelle le slam, qui est véritablement une scène ouverte, le slam. Mais après, c'est devenu un mot qui désigne un style et qui est beaucoup sur la sonorité, sur les rimes, sur les répétitions, sur les allitérations, assonances. Enfin, et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup aussi. C'est vrai, la matière du mot, le son, parce qu'il parle. On peut encore lire Francis Ponge et on voit vraiment que c'est les mots parlent. Soif, moi je trouve par exemple que c'est un des mots qui parle. On a ça parle de la soif. On le sent. D'ailleurs, j'ai soif en le disant, je vais boire un peu. Et donc oui, et c'est quand le son est au service du sens, justement. Après, c'est devenu vraiment plus comme ça dans mon écriture. Mais il y a toujours cet amour, en fait, de la matière du mot au service du son et du sens. Et le deuxième point, c'était sur les racines des mots. Alors ça, je travaille beaucoup dessus dans les chroniques essentiellement, parce que donc on en parlera peut-être plus tard. Par rapport aux mots que l'on emploie, aux mots et aux expressions qu'on emploie, c'est aussi important de revenir à la racine. Alors à la racine aussi historique. Qu'est-ce qui fait que maintenant on emploie ces mots-là ? Quel média, quelle politique ou quel vent sociétal fait que maintenant on emploie ce mot-là, mais aussi sa propre racine, son étymologie, qui est aussi quand même importante pour comprendre ce qu'on est en train de dire. Par exemple, pédophilie, pédo-enfant, philie, l'amour. Est-ce que vraiment on est en train de parler de l'amour d'enfant quand on parle de pédophilie ? Voilà, je trouve que c'est important, ça a vraiment son poids dans la pensée, dans ce qu'on construit dans le monde.
Il y a aussi peut-être le sens qui varie en fonction des époques, hein,
oui,
et exactement. Aussi des sociétés et de leur construction sociale.
Oui, effectivement, et même sur le sens des mots, effectivement, ça joue, et sur aussi l'orthographe. Voilà, d'ailleurs, une de mes chroniques, c'est sur les fautes d'orthographe, ce qu'on appelle fautes d'orthographe. Avant, on pouvait écrire d'une certaine manière, c'était ajusté, c'était validé. Et puis après, à une autre époque, le même mot écrit de cette manière-là n'est plus valable. Donc en fait, où est-ce qu'il y a faute? Quand est-ce qu'il y a faute?
En t'écoutant, Gis, il y a aussi, ça c'est l'abord de la langue française que tu traites principalement. On ne va pas aborder celle anglo-saxonne ou latine, bien que les racines s'y trouvent. Oui. Et d'ailleurs, est-ce que tu connais un peu le latin dans ce domaine?
Oui, en tout cas, je m'y penche. J'ai fait quelques années de latin il y a fort longtemps, mais... J'ai toujours été, j'ai mes dictionnaires de racines grecques et latines et j'adore ça. Oui, c'est vrai. Et c'est important de voir aussi toutes les racines, effectivement, et comme ça voyage, comme en fait on croit que certains mots sont anglais et finalement ils ont des racines françaises à la base. Et puis aussi, justement, ce côté de racines, juste pour voir que tout se mélange et que tout se transporte. Bien sûr, il n'y a pas d'étrangers sur cette terre en tant qu'humain et humaine. Il n'y a pas non plus de mots étrangers sur cette terre. Tout se charrie, tout s'inspire. Et aussi par la langue, je trouve que ça peut aussi amener à élargir aussi ces visions très nationalistes. Le français est en danger. Maintenant, on parle de plus en plus anglais. En fait, tout est là et tout est bon et on fait partie de cette même terre. Et tout s'inspire et se charrie, oui.
Dans tes émissions, abordes-tu justement ces prémices de la parole et qui émanent d'enfants, hein, et qui commencent leur première balbutiement.
Oui, balbutiement. Oui.
Et donc de reproduire aussi ce que l'enfant entend autour.
Là, je suis pas allée, en tout cas sur
dans ce domaine, non.
Dans ce domaine-là, j'en parle cependant dans un documentaire sonore que j'ai fait il y a quelques années, qui s'appelle Horizon des voix, qu'on peut écouter sur Radio La, et où là, il y a un côté aussi où j'aborde ce côté aussi des enfants qui babillent, voilà.
C'est ça, babiller. Oui, balbutiement, c'est pour les adultes qui ne savent plus parler. On revient aussi à tes propositions d'atelier. Alors, ils vont se décliner sur plusieurs rencontres, hein, sur une période qui va jusqu'en 2025, c'est ça?
Oui, jusqu'en juin 2025. Cette année, j'ai choisi de proposer quatre cycles. Et les personnes peuvent s'inscrire à 1, 2, 3 ou 4 cycles. Mais je me disais que ça donnait aussi plus de latitude aussi aux personnes quant à leur engagement. Il y a quand même un engagement sur un cycle qui représente 6 séances. Donc voilà, il y a cet engagement-là pour le groupe, pour l'enchaînement. Moi aussi, que je pense à tout un enchaînement et une progression. Voilà. Il y a aussi la possibilité de s'inscrire du 25 septembre au 13 novembre et puis de ne plus venir jusqu'au 11 juin. Voilà, ça donne vraiment une latitude. Et il y aura des thèmes qui vont un petit peu se préciser au sein de chaque cycle. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas encore figé. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, ça mêlera quelque chose qui m'est très important, c'est-à-dire l'intime et le politique. C'est notre corps intime, comment se réconcilier aussi avec lui, en rentrant en rapport avec lui, en le regardant, en écrivant dessus, en découvrant aussi d'autres histoires des corps, voilà, qui sont là, et comment aussi on peut l'amener de façon plus vaste à un niveau systémique, sociétal. Mais ça, c'est en sous-jacent, on va pas se creuser la tête, c'est pas du tout ni de débat, il n'y aura pas du tout de débat ou de conversation. En tout cas, ce ne sera pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est vraiment de s'amuser, de se rencontrer. Et autour de mouvements et de propositions que je trouve originales et simples, vraiment, c'est abordable pour tout le monde, que vous ayez jamais écrit ou que vous soyez écrivain, écrivaine. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Et autour de ça, délier sa plume et voir mots inconnus et quelles histoires encore inconnues vont pouvoir s'exprimer grâce à des propositions, une atmosphère qui, je le souhaite, va être propice à l'écriture et à l'expression.
Ces séances permettent à combien de personnes d'y participer ?
Alors moi, ça serait 8 personnes maximum. Voilà, je suis toute seule. Ça sera dans un endroit donc à 10 que je dirais au moment des inscriptions. Mais c'est assez petit, intime. Et voilà, donc pour qu'on ait l'espace. Et puis aussi, chaque séance dure 2h30. Donc qui est aussi le temps pour... ce qui va se produire, je ne sais pas encore, avec les personnes qui sont là. Je ne contrôle absolument pas les choses. Je pose des consignes, des indications, mais après, il se passe aussi plein de choses. Et puis, qu'il y ait des temps aussi de lecture, parce que ça, c'est très important. Une fois que le texte est écrit, est-ce qu'il est vraiment terminé ? Mais moi, je pense qu'il peut être terminé, ou en tout cas, la première étape, c'est lorsqu'il a été dit, lorsqu'il a été entendu et mis au monde.
Lors de ces ateliers, est-ce qu'il y aura une posture à adopter ? Parce que est-ce qu'il y a une manière différente de s'exprimer en fonction d'être soit assis, debout ou autrement ?
Oui, c'est intéressant ça, parce que justement, l'écriture, c'est vrai que c'est formidable, comme à partir d'un soi, qu'on va dire unique, bon, même s'il y a une multiplicité intérieure, mais selon si on écrit debout, assis, couché, dans des fois des postures, des fois je fais aussi adopter comme ça des postures par terre, eh bien on va pas écrire de la même manière, tout comme on n'écrit pas... Moi je me suis amusée cet été à écrire tout en majuscule d'imprimerie. C'est pas beaucoup comme changement, mais j'ai découvert aussi une autre façon de m'exprimer. Donc voilà, j'essaye aussi de montrer, après c'est toujours bien sûr avec les personnes, si elles veulent, si elles sont plus à l'aise, assises, vraiment, il n'y a pas de problème. Moi, c'est des propositions, parce que si c'est pour rester dans ce qu'on connaît déjà, c'est un petit peu dommage, mais soit, bienvenue aussi. Mais moi, j'essaye voilà, de proposer aussi des choses qui déplacent un peu sa manière de faire. Et en effet, selon l'expérience qu'on a vécue corporelle, ou selon comment on se positionne corporellement pour écrire, il va encore se passer d'autres choses.
Nous allons écouter l'une de tes émissions dans la série « Notre mot à dire ». Avant tout, qu'est-ce qui t'a motivé à produire cette série d'émissions ?
Alors déjà, c'est une grande joie de faire ces chroniques. Je m'occupe de l'écriture du premier mot qui est posé sur le papier, après de l'enregistrement, du montage et de la mise en diffusion. Et tout est déjà, ça, c'est de la variété dans tout ça. Et je viens toujours à Erdivois pour le faire. Donc en plus, j'ai le plaisir d'être avec l'équipe. Voilà, donc c'est vraiment une chance. Puis une chance qu'on ait une radio et puis qu'il soit ouverte à tellement de diversité aussi de propositions. Donc voilà, j'aime beaucoup ce média aussi, là, de radio. Ça fait longtemps, déjà à Grenoble, je faisais de la radio. J'aime encore une fois les voix, comment se passe la voix, comment voilà, on n'a pas l'image et du coup on est vraiment transporté par plein de petites choses qui se passent par la voix. Et puis pour en venir vraiment aux chroniques, ben, je trouve que c'est vraiment important de mettre en lumière. On dit beaucoup de choses en fait toute la journée et parfois on n'est pas. On dit des choses sans les penser, on les répète. Et pourquoi pas, vraiment, c'est pas du tout des jugements, mais c'est est-ce qu'on veut juste vivre en automatisme ou est-ce qu'on veut vraiment dire ce qu'on a au plus profond ? Est-ce qu'on est au plus près de ce qu'on veut dire, de ce qu'on veut pour le monde ? Voilà, donc c'est vraiment ça, quoi. Je pense que c'est pas les mots, encore une fois, qui sont primordiaux en tant que tels. C'est l'intimité qu'ils amènent. Quand on dit vraiment ce mot-là, parce que c'est vraiment ça qu'on ressent, c'est vraiment ça que l'on veut porter dans le monde. C'est pas des attouchements, c'est une agression sexuelle, par exemple. C'est ça que je veux dire dans le monde. Et c'est ça qui va apporter aussi d'autres actions pénales, par exemple, pour ce sujet-là. Donc c'est vraiment important et on le voit que c'est important parce que tous les politiques manipulent beaucoup les mots, ont toujours manipulé, mais là en ce moment on le voit aussi intensément. Et comme ça dévie la pensée, comme on n'arrive plus à penser avec certains mots. voilà, comme par exemple la délinquance, où elle se situe, la délinquance. Qui sont les délinquants? Voilà, dans quel contexte on utilise aussi les mots? Voilà, je trouve que c'est primordial de se pencher sur cela.
Alors, avant de continuer, nous allons écouter une d'elles qui s'intitule donc « Être réaliste ou bisounours ». À tout de suite.
Je me nomme Gis et je vous propose une émission sur le langage, avec des chroniques qui démasquent les expressions et les mots. Nous ne pensons pas en dehors des mots, ils conditionnent notre façon de penser. L'intention ici est de souffler sur les mots et d'embraser notre présence. Bonjour, aujourd'hui une chronique sur être réaliste ou bien être bisounours. On peut se voir traiter de bisounours à partir du moment où l'on exprime des perspectives de lien, de partage, de douceur par exemple. Et ces aspirations seraient l'opposé d'être réaliste, souvent perçu comme se rendre compte que la situation est difficile et qu'elle ne changera pas de sitôt, qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Cette sorte de réalisme, souvent synonyme de soumission, de pessimisme et d'être résolu, cette sorte de réalisme pour lequel tous les changements qu'impliquerait d'aller vers une situation plus satisfaisante font si peur, impressionnent tellement que ce sentiment d'impuissance qu'il convoque est balayé d'un revers de mépris avec ce mot de « bisounours ». Ce mot renvoyant d'ailleurs au dessin animé de l'enfance, et donc à la naïveté et à l'ignorance, souvent malheureusement synonyme de l'enfance. Car oui, j'ai l'impression que ce qui est pris au sérieux, c'est plutôt le défaitisme et le pessimisme, plutôt que le mouvement et la vision d'un meilleur. Mais profondément, cela dépend d'où émerge cette vision d'un meilleur. Et elle peut paraître naïve, en effet, lorsqu'elle est coupée de ce qui est, de la situation du moment, lorsqu'elle ne s'appuie pas sur le contexte et les différents paramètres qui le sous-tendent. Pour moi, être réaliste ne s'arrête pas à voir que la situation est telle qu'elle est. Si l'on veut être au plus proche de la réalité et de sa propre vérité, c'est aller plus loin et se demander si cette situation nous correspond vraiment, si l'on est en accord avec. Et sinon, à partir de là, à partir de cette réalité, mettre des moyens en place pour aller justement vers sa vision, qui peut être la beauté, le calme, le lien, la solidarité, etc. Bref, ces mots qui évoquent pour des personnes désabusées un rêve inatteignable et donc bisounours. Et par ailleurs, est-ce réaliste que de penser que les choses ne pourraient pas être autrement? Est-ce réaliste que de penser que l'être humain peut vivre éloigné d'aspirations d'amour, de bonheur? Et pour une allusion à notre époque, est-ce réaliste que de penser que tout va continuer comme avant? Comme si la planète n'avait pas de limites, comme si les êtres humains étaient des machines infatigables. Et pourtant, c'est souvent les personnes qui ont vraiment réalisé ces changements écologiques et sociaux et qui veulent mettre des moyens pour faire changer la situation qui sont perçues comme des idéalistes, voire des utopistes. À réfléchir. Soyons réalistes. Tout est possible.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Voilà, donc un extrait de cette émission « Être réaliste ou bisounours ». Justement, la teneur de ces textes, de ces émissions, quels sont les fils conducteurs?
Le fil conducteur, c'est, comme je le disais, c'est éveiller notre présence à l'importance des mots. Voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de produire là? Est-ce que c'est juste? Et de reprendre aussi la main sur nos pensées. Parce que, bien sûr, on pense avec des mots. Et de reprendre la main et la liberté de pouvoir aussi penser autrement. Voilà, parce qu'en utilisant les mêmes mots, on pense de la même manière. Et parfois, juste on change le mot, et d'un coup, ça ouvre plein d'autres mondes, en fait, possibles. Donc, c'est vraiment ça, c'est une forte appétence pour l'émancipation, la liberté, et vraiment la singularité, de rester singulier. Alors, ça ne veut pas dire isolé et individualiste, ça veut dire vraiment... être soi dans le monde et en tant que créateur, créatrice de quelque chose et pas un ou une automate qui va reproduire ce qu'on va lui dire et croire que la vie est avec un grand livre et tout le monde fait la même chose en fait. C'est comment on crée sa vie et je pense que ça passe aussi par les mots, voilà mon positionnement en tout cas.
Pour toi Gis, donc l'important c'est surtout que le mot soit exprimé, exclamé.
Oui, et qu'il soit dit dans sa vérité, parce qu'en plus on a quand même une langue, en tout cas la langue française est quand même vaste. Moi, je vois, j'apprends tout le temps encore de nouveaux mots pour être plus nuancé sur ce que je veux dire à un niveau personnel ou professionnel, enfin, et être vraiment au plus juste, au plus près. Je trouve que c'est vraiment l'intimité qui me parle. J'ai un ami qui parle d'intimologie et ça me parle aussi beaucoup. Voilà, l'intimologie des mots.
Il y a cette notion de la pensée qui construit aussi le mot, qui construit la phrase. Et je me souviens d'un reportage d'il y a une vingtaine d'années et où se présentait un meeting organisé par le Front National à l'époque. Et sur l'entrée, au-dessus de l'entrée de ce festival, il y avait écrit « Pensée rend libre ». Et je voulais savoir quelle est pour toi cette signification et cette phrase. Qu'est-ce qui pourrait être heurtant dans cette notion ?
Mais c'est toujours à partir de quoi on pense. Ben surtout, en plus, là, on voit l'origine du Front National. Je pense pas que le fait de penser soit leur activité principale. C'est plutôt, ils font beaucoup de choses sur l'histoire, en fait, qu'ils reproduisent sans cesse. Et puis, on ne pense pas en dehors, encore une fois, de nos émotions et de nos sensations. Comment on peut penser exclure des gens et faire des actes dans ce sens-là en étant coupé... Enfin, il faut forcément être coupé, en fait, d'une partie de soi. Puisque on est... Enfin, je ne veux pas rentrer dans des choses, on est un tout, voilà. Mais voilà, l'autre, c'est moi. Je fais du mal à l'autre, je ne peux pas ne pas avoir mal. Donc là, il faut vraiment être coupé pour pouvoir le faire. Donc à partir de quoi on pense ? Est-ce qu'on pense à... Enfin, notre intellect, c'est aussi notre cœur, enfin, notre affection, notre lien avec les autres. Donc là, venant du Front National, ce mot de pensée, voilà... Et rend libre, encore une fois, la liberté venue de Front National. Enfin, qu'est-ce que la liberté ? La liberté pour qui ? Pourquoi ? La liberté de gagner plus d'argent ? La liberté d'être entre blancs ? Enfin, qu'est-ce que c'est leur façon de voir la liberté ? Voilà, bon, par rapport au Front National. Mais aussi, moi, je continue d'appeler d'ailleurs Front National. Voilà, c'est important de garder ce mot-là, parce qu'après, il y a plein de jolis mots qui viennent enjoliver des choses très violentes, des partis très violents. La pensée, voilà. Donc oui, la pensée rend libre. Ouais, à partir de quoi ? C'est pas la pensée qui rend libre, c'est à partir de comment on peut réouvrir la pensée, à partir de quoi je peux me rendre libre, parce qu'on peut penser avec ses propres petits mécanismes, ses propres mots toujours les mêmes, et ça ne rend pas libre. Ça tourne en boucle comme comme une petite souris dans sa roue. Et donc c'est comment se rendre plus libre, justement avec la diversité, justement en rencontrant les autres, justement en se mélangeant. Moi c'est comme ça qu'on se rend libre, je ne crois pas être d'accord avec le Front National du coup.
Et puis la pensée demeure en silence.
Oui, dans ce cas-là pour... comment ça ?
La pensée n'est que silence, si ce n'est que de la pensée.
Ah, si ce n'est que de la pensée, en tout cas, dans sa tête, oui. Mais on peut penser, moi, ce que j'aime, et c'est justement dans mes pratiques, dans mes ateliers, il y a beaucoup ça, c'est justement être ensemble pour pouvoir faire une intelligence collective. Et là, on se rencontre, et là, on s'ouvre, en fait. Si on sait vraiment s'écouter, et que, bien sûr, on tient à certaines choses, mais il y a aussi l'autre qui vient faire effraction avec une façon de penser, avec un mot, avec une attitude. Et on vient on est pour eux, en fait, et pour eux. Donc c'est ça aussi qui fait qu'on élargit notre pensée.
Ces ateliers que tu vas proposer, il y en aura une multitude, hein, je n'ai pas compté, mais chacun de ces ateliers proposera une action différente, ou alors il y aura quand même en quelque sorte une suite. Alors, tu citais qu'il fallait peut-être assister au moins à une série.
Ah, c'est même sûr, c'est nécessaire. C'est l'engagement se fait sur une série de 6. Et en effet, en tout, il y en a 24, donc de septembre à juin. Et il n'y a pas nécessairement. Enfin, il y aura une progression, en tout cas, au sein des cycles, de la première séance à la sixième séance. Mais après, au second cycle, on passera légèrement à une autre couleur, mais tout le temps sur le thème du corps. Les personnes peuvent vraiment suivre les 4 cycles sans s'ennuyer. Voilà. Et en même temps, on peut venir au cycle 1, puis au cycle 3. Voilà. Oui. Je vais vraiment les faire d'une manière, à vraiment les articuler d'une manière libre et avec une progression à l'intérieur des cycles.
La langue française, c'est une passion qui t'a pris très tôt?
Oui. Ah oui, toute jeune, vraiment toute petite, j'adorais créer des histoires, j'aimais écrire, dessiner, me raconter des histoires. Enfin, ça a été quelque chose de autant fantastique, poétique et doux, que aussi un refuge. Enfin voilà, ça fait vraiment du bien. J'ai une enfance plutôt solitaire et ça me faisait vraiment du bien aussi. C'est créé aussi des amis, une famille, c'est créé tout un monde aussi en soi et autour de soi du coup. Je ne sais pas si on peut parler dans la vie, hein, d'une manière générale, de talent ou voilà. Mais en tout cas, j'avais une facilité pour écrire les mots, pour les comprendre, pour les sentir surtout. C'est pas qu'une facilité orthographique, mais vraiment aussi, pour moi, c'est vivant un mot. C'est vraiment pas du tout un jet d'encre ou un. Il y a vraiment une vibration. Un mot peut m'éclairer ma journée, tout comme une musique. Voilà, j'entends une musique avec ou sans parole, ça va m'amener vers une autre direction. Et les mots, c'est pareil. J'ai plein de mots accrochés chez moi, partout, dans toutes les pièces. Et ça me fait du bien, ça m'amène aussi ailleurs, ça me stimule, ça me réjouit, ça me sauve, ça m'éclaire. Ouais.
Ce sont des mots que tu rédiges toi-même sur du papier, ou alors ce sont aussi des reproductions d'œuvres artistiques, ou peut-être même des œuvres d'artistes qui explorent le mot, le vocabulaire également.
Ah, c'est surtout des citations. Alors au sein de, par exemple, un écrit, je peux écrire des pages et des pages, et puis il y aura par bonheur, par miracle, une pépite que moi je vais considérer comme une pépite en tout cas, et que je vais extraire pour voilà, parce qu'elle me fait du bien en fait. C'est une pépite, c'est pas que c'est un chef-d'œuvre, c'est que ça me fait du bien. Et il y a aussi des citations d'autres autrices, auteurs, voilà, mais c'est ce qui me fait du bien, ce qui me ramène en fait. Et je sais que j'ai aussi, enfin, une de mes amies est vraiment très sensible aussi à ça. Quand j'envoie des phrases, elle me dit mais merci, ça me rafraîchit. Et j'adore sentir aussi que pour les personnes, c'est pas juste ah voilà, je lis, mais ça, je sens que ça l'imprègne, ça vient vraiment s'intérioriser en elle pour lui faire du bien. Donc c'est vraiment merveilleux de sentir qu'on a plein de compagnies différentes, tout bord. C'est pas que humain, végétal, animal. C'est aussi des mots. C'est des bons compagnons, les mots.
Ces ateliers que tu proposes, c'est une continuité de ce que tu as déjà proposé dans les années précédentes. Et c'est le cas. Hein. Et je voulais savoir, est-ce que tu as un retour de ce public qui vient à tes ateliers? Et est-ce que, par exemple, ils ont pu être peut-être étonnés de ce qu'ils possèdent en eux, que tu as pu peut-être faire ressortir?
Oui, alors j'ai des retours dans ce sens-là. Et, Et aussi, alors, les personnes peuvent être aussi étonnées de la manière dont j'aborde les ateliers d'écriture. Parce qu'encore une fois, c'est pas du tout... D'ailleurs, j'ai fait une formation en 2010 par le GFEN, donc le Groupement Français d'Éducation Nouvelle à Grenoble, qui est super, cette formation, et qui est vraiment une super base. Mais c'est vrai que je ne fais pas les pratiques de cette... Je ne fais plus les pratiques de cette manière-là, encore une fois, autour d'une table, sur une chaise, et on joue avec les mots. Ça a toute sa richesse. Mais là, moi, on prend aussi son envol et puis on fait par rapport à nos sensibilités. Et moi, voilà, je sais que j'aime que l'écriture soit une conséquence d'une expérience, voilà, à plusieurs, d'une expérience de, voilà, de rencontre, de mouvement, etc. Donc, ils et elles peuvent être étonnés de cette manière d'aborder. Et c'est plutôt réjouissant parce qu'en fait, ça convoque plusieurs choses. C'est d'écriture, mais c'est aussi voilà, des rencontres et autres. Et puis aussi, oui, être étonné de ce qui sort de ces pratiques. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de personnes qui viennent parce qu'elles... elles écrivent d'une certaine manière et elles voudraient découvrir autre chose. Et que justement, avec des propositions, avec des rencontres, elles se rendent compte qu'elles se laissent un peu dévier et aller vers d'autres formes d'écriture. Et ça, c'est très réjouissant de rencontrer aussi d'autres choses qu'on a en soi. Et moi, j'en suis toujours là. Je serai toujours là parce que c'est vraiment ça... C'est aussi pour moi-même toujours quelque chose de très étonnant d'écrire. J'écris depuis longtemps et ce qui me fait écrire, c'est que je ne sais pas ce que je vais écrire. C'est souvent dit, hein, cette chose-là, mais vraiment, je n'écris pas ce que je pense. Je vais plutôt penser à partir de ce qui va sortir dans mon écriture. J'adore ça, c'est vraiment se rencontrer plein de facettes, plein de choses qui voulaient se dire et que je n'aurais pas exprimé sans l'écriture.
Ces ateliers aussi, est-ce que tu prends conscience ou est-ce que tu tiens à ce qu'il y ait une certaine parité dans les participants ? Je reviens aussi sur une réunion politique auquel j'ai assisté il y a quelques années à Saillant, où un groupe de personnes s'exprimait, chacun à leur tour. Et une femme, dans cette assistance, analysait un peu ce qui s'est passé et a conclu à la fin de cette réunion publique que les femmes systématiquement s'excusaient de prendre la parole.
Oui, alors pour moi, c'est sûr que ça me tient vraiment enfin, à cœur et au corps, parce que en étant femme, enfin cisgenre en tout cas, et très investie contre les violences faites aux femmes... par les chouettes, avec les chouettes avec qui je fais des choses, par le Théâtre Forum depuis plusieurs années. Regardez d'ailleurs, pour les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Théâtre Forum ? On a la Troupuscule qui a dit, qui propose des ateliers, super. Et donc, oui, je fais attention à ça. Après, la parité, je vois aussi, bah, les personnes sont bienvenues. Il y a beaucoup plus de femmes qui s'inscrivent. Donc, il y a moins ce côté de... Enfin, il y a... presque que des femmes, d'ailleurs, que des femmes. Et il y a donc moins ce côté de voir l'excuse, justement, de prendre la parole ou se faire couper la parole par un homme ou parler moins parce qu'on ose moins. Il y a moins ces enjeux-là. Mais en tout cas, c'est bienvenu de mettre ça aussi sur la table de la vie. Et les hommes, les femmes sont bienvenus. Enfin, à partir de 15 ans, d'ailleurs, je le rappelle, vraiment, toutes les personnes sont bienvenues. Et puis, je fais confiance aussi à l'intelligence de toute personne et puis de tout ce qui est en train aussi de se passer depuis ces dernières années, encore plus, pour faire en toute intelligence et en tout genre.
On peut peut-être indiquer aussi les modes d'inscription à ces ateliers.
Oui. Alors, vous pouvez donc me demander aussi plus d'informations et où vous inscrire à GIS7, donc GI2S7, @protonmail.com. GIS7@protonmail.com. Voilà, il y aura en description sur la page sur Erdiwa.
Est-ce qu'il y a des frais, des participations frais, une inscription ?
Au niveau des tarifs, c'est 108 euros le cycle. Donc le cycle de 6 séances qui dure entre 2h et 2h30 selon le nombre de participants, participantes. Voilà.
Tu es venue avec un texte. Est-ce que tu souhaiterais nous le lire et peut-être nous en parler aussi?
Oui, c'est un texte que j'ai rencontré dans une BD, dans une salle d'attente, et qui m'a vraiment émue. Enfin, déjà, la BD m'a émue. Elle s'appelle « Les gens sont beaux » de Baptiste Beaulieu. Nous vieillissons avec notre corps. Notre corps a une histoire. Les stigmates, de vivants symboles de ce que nous avons vécu. La vie laisse son empreinte sur notre corps. Ce corps a aimé parce qu'il est là, parce qu'il fait comme il peut. Aimons-le comme un ami qui porterait pour nous une part de notre fardeau pour nous en soulager un peu. Oui, aimons notre histoire parce que nous sommes humains, humaines, parce que nous vivons ici comme nous pouvons, dans la limite de nos capacités et le difficile exercice qu'est le respect de nous-mêmes. L'existence est dure. Les émotions violentes et le chemin ne fait pas de cadeaux. Regardons-le, ce corps. Regardons-le dans le miroir. Regardons-le comme on ouvrirait un livre d'aventure, un peu abîmé, un peu écorné, un peu taché, parfois jauni, ou dont certaines pages auraient été déchirées. Nous avons toutes et tous un livre qui n'appartient qu'à nous. Et si nos histoires sont écrites dans nos chairs, c'est bien parce qu'elles doivent aller quelque part, qu'elles doivent laisser une trace, un message et du sens. Nous avons toutes et tous des rêves d'enfants mal refermés. Rien ne s'est passé comme on l'imaginait. Et depuis le début, personne n'est là pour nous dire le meilleur chemin à prendre ou ce que nous sommes censés être. On te dit « Sois toi-même !» Mais personne ne te dit à quel point c'est dur. Retiens bien et n'oublie pas. Être humain, humaine, vivre, aimer, pleurer, espérer, ressentir, quoi qu'on en dise, c'est héroïque.
Merci. Merci. Tes émissions reprennent sur RDWA. Est-ce que tu peux nous en dire un peu?
Oui, je suis très heureuse de reprendre donc l'écriture de ces chroniques. Elles seront diffusées à un rythme moins fréquent qu'auparavant. C'était une fois par semaine. Là, ce sera une fois tous les 15 jours. Mais il y aura la diffusion donc de la même chronique deux fois, à deux moments pendant les 15 jours d'intervalle. Donc voilà, et là je peux déjà vous dire les titres des quatre prochaines chroniques donc pour la nouvelle saison. C'est... Se donner un coup de pied au cul, seul ou en couple, l'amour rend aveugle et la confiance. Voilà, pour mettre l'eau à la bouche, j'espère.
À ma demande, tu nous as proposé une écoute d'une chanson de Romain Didier qui s'intitule « C'est qui Radon ».
Oui.
Qu'est-ce qui te subjugue chez cet artiste ?
Ah, j'adore cet artiste, je l'ai découvert il y a, je ne sais pas, une quinzaine d'années peut-être, ou un peu plus. C'est dans la vague de Loïc Lantoine, d'Alain Leprest, Mainvielle, enfin voilà, tous ces auteurs que j'aime beaucoup, et spécialement Seki Radon. Donc essayez de voir ce qu'il a voulu dire aussi, je ne vais pas le révéler là, mais Seki Radon, ça veut dire quelque chose, si on met les lettres dans un autre sens. Et j'aime particulièrement cette chanson parce qu'il joue vraiment aussi beaucoup avec les mots qui, comme ça, ne voudraient plus rien dire, mais on comprend très bien quand il dit « Mon âme-même, je tourne ».
Gis, merci beaucoup de ta présence au studio de RDWA et nous souhaitons une bonne soirée à toi.
Oui, merci. Merci Yves pour ton intérêt et tes questions. Merci RDWA et belle vie à vous tous et toutes.
Au revoir.
Au revoir.
Comme tu comprends tout à l'envers et que ça m'embête. Dorénavant, je vais tout fendre, sans queue ni tête. peut-être qu'en cacher la vérité dans ses voyelles. Elle, elle aura le thé de t'arrivant à la cervelle. Elle, c'est qui ira donc? Mais mon âme même, je tout. C'est qui ira donc? Mais mon âme même, je tout. S'en est assu, j'en ai plein le quai de tes silences. Dois-je y trouver comme un débé d'indifférence? Je préfère penser que t'as dû m'aimer, ne te déplaise. À intégrale les lois normées de la langue française. C'est qui ira donc? Mais mon âme même, je tourne. C'est qui ira donc? Mais mon âme même, je tourne. Je te fais la casse sans que tu me fourres la moindre avance. Mes mots d'amas, je me les ramour, à peine je les lance. Mais tout ami, t'as ses limours, et moi de même. Fais gaffe qu'un gîte, je ne te cours, même si tu m'aimes. C'est qui ira donc? Mais mon âme même, je tout. C'est qui ira donc? Mais mon âme même, je tout. C'est qui ira donc? Mais mon âme même, je tout. C'est qui ira donc? Mais mon âme même, je tout.